Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Nous avons commencé la semaine dernière une série d'émissions sur les femmes dans la Bible, avec la femme de Béthanie qui a oint les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Aujourd'hui, nous allons relire l'histoire très connue d'une autre femme anonyme, celle de la femme adultère et de sa rencontre bouleversante et décisive avec Jésus au temple de Jérusalem. Seul l'évangile de Jean raconte cet épisode au chapitre 8, versets 1 à 11, et nous relisons ce texte dans votre traduction, Père Alain, qui se trouve dans votre nouveau commentaire de l'évangile de Jean, publié en 2011 chez Bayard. Ils s'en allèrent chacun chez soi, et Jésus alla au mont des Oliviers. Et dès l'aurore, il fut de nouveau dans le temple, et tout le peuple venait vers lui. Il s'assit pour enseigner. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et il demeura seul avec la femme là au milieu. Alors se redressant, Jésus lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle dit : « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Cet épisode de la femme adultère apparaît uniquement dans l'évangile canonique de Jean que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, ce magnifique récit a bien failli ne jamais nous parvenir. Que s'est-il passé, Père Alain ?
Oui, c'est un peu un roman policier. Il se trouve que les manuscrits les plus anciens ne contiennent pas cette séquence. Ça a surpris beaucoup. Il y a un certain nombre de versions qui n'ont pas ce récit, mais surtout, on a découvert au cours du XXe siècle des papyrus que nous ignorions, qui étaient en Égypte. Et parmi ces papyrus, il y en a deux en particulier qui sont très, très importants, le papyrus 66 et le papyrus 75. Celui de papyrus 75, c'est le complet, c'est éblouissant de se dire qu'on a des papyrus des années 250 qui contiennent déjà la totalité de l'évangile de Jean. C'est formidable. Eh bien, quand on a regardé ces textes, il manquait la scène que vous venez de lire, c'est-à-dire la scène de la femme adultère. C'est évidemment étonnant et on s'est posé la question. Le texte était connu, il circulait oralement. De manière, on aperçoit souvent un document qui circule, mais qui n'est pas intégré dans l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est un peu une énigme. Il y a plusieurs types de réponses. Moi, je crois, avec certains exégètes, que d'abord qu'il est joannique. Il est clair que quand on s'intéresse à la narrativité, on est sensible à son côté joannique. Hélas, on a longtemps pensé, que vous l'avez dit dans votre introduction, qu'il était lucanien, mais depuis qu'on a choisi la voie narrative, on a compris davantage qu'il s'intègre bien dans la narrativité de Jean. Donc, moi, je pense avec beaucoup d'exégète qu'il est de Jean. Et pourquoi l'a-t-on pas pris? On pourra peut-être le commenter après. Sans doute parce que ça gênait l'Église primitive. Et donc, ça nous fait réfléchir un peu sur le passage de Jésus à l'Église. L'Église, on a lu dans la séance précédente, qui est passée la semaine dernière, on a lu le récit de la tendresse de Jésus face à une femme pécheresse. Et ici, nous avons un texte qui est aussi fort dans sa densité et que l'Église primitive apparemment a mis de côté parce qu'elle trouvait qu'il était trop dur dans une Église qui s'organisait, en particulier pour tout ce qui touchait à la sexualité, le mariage et tout ça, rigueur. Or, si Jésus est si libéral, comment organiser une Église? C'est une question. Et finalement, il a quand même été gardé. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est dit non, il faut garder ce texte. On dit souvent, c'est peut-être le joyau de tous les évangiles. Heureusement que s'est trouvé un scribe intelligent un jour pour dire non, on va le remettre à sa place. Et je crois qu'il est à sa place. On pourra peut-être l'expliquer pourquoi après, pourquoi il est vraiment bien à sa place.
Ben, c'était un peu ma question suivante. Oui. Pourquoi est-il inséré à ce moment-là de l'évangile de Jean?
Vous avez raison. C'est-à-dire que il fait partie de la grande séquence du chapitre 7 au chapitre 8. Les deux chapitres de Saint Jean sont les plus virulents de tout l'évangile avant la Passion. C'est le chapitre qui célèbre la fête des tentes. Jésus, vous connaissez la séquence, et il semble, je ne vais pas être trop long parce que nous avons des temps relativement réduits, Jésus est allé à la fête des tentes avec ses frères. Il s'est caché, il a dit à ses frères, allez-y, moi j'irai de mon côté. Et le commentaire dit, ses frères ne croyaient pas en lui. Puis finalement il y va, et tout l'enjeu de ces deux chapitres va être, de la part des autorités juives, comment faire tomber Jésus. Et ils vont essayer par tous les moyens. Et le thème récurrent qui revient dans ces deux chapitres, c'est ils voulaient le faire périr. Il y en a un qui va le défendre, un seul, dans ce chapitre, c'est Nicodème. Nicodème arrive et dit, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir jugé. Et donc, leur projet, au fond, échoue. Et ils se retirent. Je fais un peu la transition. Le soir venu, ils rentrent chez eux, la fête n'est pas finie, n'oublions pas que la fête dure 7 jours, pour revenir le lendemain. Et pendant la nuit, les pharisiens ont la chance, si on peut dire, de trouver l'argument qui leur permettra enfin de faire tomber Jésus. C'est la découverte, si on peut dire, d'une femme surprise en adultère. Et là, ils se disent, là, il est perdu.
Alors, effectivement, pour essayer de le faire tomber, ils invoquent la loi de Moïse, la Torah, et veulent la condamner à mort. Donc, il y a une gravité forte au niveau de l'acte. Alors, la Torah, c'est essentiellement le Lévitique et le Deutéronome qu'ils invoquent. Et qu'est-ce que disent les textes juridiques par rapport à l'adultère à ce moment-là?
Bon, les textes sont clairs, hein, c'est-à-dire... C'est pour ça que les pharisiens sont convaincus qu'ils ont trouvé l'argument qui fera tomber Jésus. Parce que soit Jésus suit la Torah, et à ce moment-là, il aura contre lui les Romains, parce qu'il n'a pas le droit de faire de condamnation à mort. Soit il ne suit pas, il aura contre lui toute la loi de Moïse. Vous avez dans le Lévitique, au chapitre 20, cette phrase toute simple. « L'homme qui commet d'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et son complice. » Et dans d'autres cas, c'est encore plus précis, dans le Deutéronome, chapitre 22, si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, là c'est précisé, tous deux mourront, l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même, tu feras disparaître d'Israël le mal. Et donc, c'était la loi. Alors on pourrait dire en passant, j'imagine que vous y êtes sensible, cette violence que l'on trouve dans certains pays aujourd'hui, où on peut faire périr une femme. Je veux dire, on vient aussi d'une période où il apparaissait juste de pouvoir châtier des hommes et des femmes qui avaient péché. Et donc, ça nous dit à la fois d'où nous venons, et ça nous dit aussi comment Jésus fait basculer un peu toutes ces choses.
Alors, vous avez relu les textes juridiques. Bon, tout le monde sait que pour commettre un adultère, il faut être deux. Or, là, dans la séquence, la femme a été prise en flagrant délit, donc elle était forcément avec son complice, et on ne parle pas du tout du complice. On a l'impression qu'il va échapper au procès. Est-ce qu'il s'est enfui, ou est-ce que finalement il ne vaudrait pas mieux que ces femmes-là, comme disent les scribes et les pharisiens? Est-ce qu'il n'y a pas une connotation
Oui, alors, il y a un autre texte qui nous éclaire peut-être un peu là-dessus, c'est dans le Deutéronome. Deutéronome a écrit plusieurs textes, et au chapitre 22, si c'est dans la campagne que l'homme a rencontré la jeune fille fiancée, qu'il l'a violentée et a couché avec elle, l'homme qui a couché avec elle mourra seul. Tu ne feras rien à la jeune fille. Mais si c'est en dehors de la campagne, si la fille n'a pas crié, elle sera aussi mise à mort. Et elle sera, méritera la mort, comme dans le passage précédent. Alors vous avez raison, l'homme, où est-il passé? Ça veut bien dire qu'ils avaient choisi une femme, parce que leur objet n'était pas tellement de tuer quelqu'un, c'était de faire tomber Jésus. Donc la femme devient l'occasion, si on peut dire, et elle n'a pas d'identité. C'est l'objet, elle est l'objet pour faire tomber Jésus.
Il y a un autre homme qui n'est pas là, c'est le mari trompé, le plaignant. Il est absent aussi.
Mais ça ne les intéresse pas.
On est dans une justice qui s'applique exclusivement à la femme.
La femme, c'est vrai, c'est vrai.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est probablement ce texte juridique qui aurait pu être invoqué par Joseph, qui se posait des questions à propos de Marie, si l'ange n'était pas venu et si Joseph n'avait pas cru à la parole de l'ange.
Ou Joseph, il avait une autre grandeur d'âme, hein, donc je ne pense pas qu'il aurait cherché... La preuve, c'est qu'il a cherché à trouver une solution avant que l'ange l'avertisse, solution pacifique, hein. Il décida de la renvoyer, donc c'est autre chose. Donc, je pense que c'est vrai qu'autour de la sexualité, il y a toujours eu des enjeux très très graves, mais ici on voit bien que c'est une femme fragile, et Jésus, d'une certaine manière, est piégé. Mais il va sortir de ce piège avec à la fois une habileté, une grandeur et une tendresse extraordinaire.
Alors, il prend son temps pour réagir. Hein. Les juges l'ont interrogé, donc il a sûrement compris qu'il cherchait à le piéger, bien entendu. Il reste assis en silence et il fait des graffitis sur le sol. Alors, on s'est beaucoup posé de questions sur ces graffitis. Est-ce que c'était des mots? Est-ce que c'était des dessins? Sachant que, par ailleurs, Jésus n'a rien écrit, autant qu'on sache. Donc, ça a intrigué beaucoup de gens, ces graffitis.
Oui, on a cherché de toutes sortes. Certains disent que c'est Saint Jérôme qui dit qu'il écrivait les péchés de ceux qui étaient là. Je crois que d'autres ont cité un passage peut-être peu connu de Jérémie, au chapitre 17 de Jérémie, au verset 13, on dit « Ceux qui se détournent de toi, Seigneur, seront inscrits dans la terre ». Donc Jésus travaille sur la terre, il pourrait y avoir une référence. Non, moi je pense que Jésus fait des traces, il fait des dessins, il attend de l'estocade, si on peut dire. Hein. Mais c'est beau de se dire, il s'est mis à ras de terre, on pourrait dire, comme la femme, parce que la femme est allongée, elle est à terre. Et la femme, c'est un objet, n'oublions pas que nous sommes dans la fête des tentes, il n'y a que des hommes sur le temple. Hein. Et tout le monde, elle est entourée, elle est encerclée, on pourrait dire, presque un cercle de mort. Et Jésus s'abaisse lui-même à sa hauteur, et il attend.
Et alors là, on arrive à la fine pointe du récit, ouais. Parce que la phrase, la réponse de Jésus, qu'on pourrait qualifier avec un petit jeu de mots de lapidaire, elle est imparable. Que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. Et les juges s'en vont, les uns derrière les autres, en commençant par les plus vieux. C'est extraordinaire, cette scène, Père Alain.
C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on peut, la contourner de différentes façons. Jésus s'inscrit en dehors de la loi. Parce que Jésus, en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Est-ce que Jésus, alors c'est moi qui vous renvoie peut-être la question, est-ce que vous pensez que Jésus s'inscrit en dehors de la légalité, puisque en disant que seul peut jeter la pierre, c'est-à-dire juger et condamner celui qui n'a jamais péché, est-ce qu'il peut y avoir un jugement? Est-ce qu'il peut y avoir une loi? Qu'est-ce que ça voudra dire? Vous vous en doutez que c'est quand même très grave le comportement de Jésus. Comment expliquer cette attitude, au fond, devant une situation tragique où Jésus va contourner la difficulté? Mais bien sûr, on ne peut pas que s'attarder sur ce texte-là, parce que s'il n'y avait que ce texte, on dirait oui, Jésus, il est contre la loi, il est pour la liberté absolue, mais son objectif ici, c'est justement d'échapper au piège qui lui est tendu. Pour le moment, vous l'avez sans doute remarqué comme moi, la femme n'a aucune participation.
Elle ne dit rien du tout.
C'est un objet.
Oui.
C'est après que ça va commencer.
Et effectivement, Jésus, parce qu'on peut se poser la question de savoir, parce qu'il ne pardonne pas, il dit « je ne te condamne pas », il ne dit pas « je te pardonne ». Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a acquittement, est-ce qu'il y a non-lieu, comme on dirait dans un procès? Voilà, la question, elle est quand même, elle est posée.
On pourrait dire, l'épisode s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire, Jésus a dit une phrase qui change complètement la situation, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, ça veut dire, elle était entourée, encerclée par la foule. Imaginez tous ces hommes, hein, cette mentalité d'une femme toute seule, avec des hommes autour, elle à terre, et on voit le cercle, ça doit être très beau, dans les Pasolini, dans les films, on voit le cercle qui se défait progressivement, les uns après les autres, ils s'écartent, le cercle s'ouvre, elle n'est plus enfermée. Et que reste-t-il? Jésus et elle. Et c'est là que le dialogue va commencer.
Et parce que c'est vrai, Jésus, on pourrait en déduire qu'il ferme un peu les yeux sur la question de l'adultère, mais pas du tout. Il transforme un peu la vision. J'ai repensé à cette phrase dans Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère » et moi je vous dis « quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle ». Et je pense que les hommes qui étaient là devaient, je ne sais pas s'ils avaient déjà entendu cette remarque, mais bon, ils devaient peut-être se sentir un peu visés aussi. Hein.
Alors, c'est un paradoxe aussi. Hein. C'est-à-dire, comment mettre en lien le passage que vous venez de citer? Vous avez appris qu'il a été dit, moi je vous dis, c'est-à-dire cette radicalisation de la loi de la part de Jésus, d'un côté, et de l'autre, la tendresse de Jésus pour cette femme. Est-ce que vous ne pensez pas que ça rejoint au fond beaucoup de problèmes qui sont débattus aujourd'hui, que la société politique va remettre en route dans les temps que nous traversons, autour de la sexualité, autour du mariage, autour de l'enfantement, autour de la naissance, autour d'un tas de choses qui sont très, très graves et très sérieuses? Comment expliquer que l'Église soit d'un côté souvent très rigoureuse, un peu comme Jésus l'a été? Vous avez appris qu'il a été dit, vous avez cité le verset. Moi, je vous dis, ça veut dire que Jésus, il est rigoureux dans la loi. Mais comment expliquer cette rigueur de la loi que Jésus affirme dans l'ensemble de ses oppositions? Vous avez appris, moi, je vous dis, c'est radicaliser la loi. Et en même temps, va, moi, je te condamne pas non plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a là une sorte de libéralité de la part de Jésus? Comment relier les deux? C'est là qu'on voit bien, ça touche l'Église d'aujourd'hui. L'Église, elle est mêlée à ces débats autour du divorce, autour de comment accueillir les divorcés, par exemple, qui veulent retrouver le chemin de l'Église. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Et Jésus, vous comprenez peut-être mieux maintenant ce que nous disions au début, pourquoi l'Église, certaines parties de l'Église primitive, a souhaité écarter ce texte, parce qu'il est trop libéral. C'est-à-dire, Jésus est trop libéral, Jésus est décidément trop libéral, donc il faut éviter ce texte, et on l'a écarté sans doute pour une raison comme ça. Moi, c'est mon hypothèse avec d'autres auteurs, et donc ça nous fait réfléchir sur, il faut une loi, c'est vrai, mais en même temps, il faut aussi la tendresse et la tolérance.
Est-ce qu'on ne pourrait pas rapprocher, pour terminer, la dernière parole de Jésus, « va, désormais ne pêche plus », avec la célèbre phrase de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ».
Bien sûr, c'est-à-dire, oui, on pourrait dire saint Augustin, puisque vous me tendez une perche indirectement, on pourrait peut-être finir par là. Saint Augustin, quand il commente ce passage, dans ses commentaires sur saint Jean, il a cette belle phrase, « Tout le monde est parti, ne reste plus sur l'espace que misera et misericordia. » La miséricorde est la misérable ou la pauvre. Voilà. Et c'est ça la tendresse de Dieu.
Qui est devenue aussi une disciple, comme on l'avait vu la semaine dernière avec la femme au parfum.
Voilà.
Merci Père Alain. Nous sommes donc au terme de cette émission consacrée à ce magnifique évangile de Jean. Nous poursuivrons cette série d'émissions sur les femmes bibliques dans de prochains numéros de Selon les Écritures. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique Selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.